n'a pas trouvé de guitare.
C'est comme Nietzsche qui dit je ne connais pas un Dieu qui ne chante pas, qui ne danse pas. Donc Dieu, s'il parle, ça devient un chant. S'il marche, ça devient la danse. Donc le chant de Seigneur, la Bhagavad Gita, ça veut dire le chant de Seigneur, Dieu. Dieu chante pour papa. C'est une très grande différence parce que Dieu qui parle, on connaît Dieu qui parle, la parole de Dieu. Dieu peut que chanter. Vous avez jamais rencontré Dieu? Qui chante, qui danse? Dans le chant, dans la danse, on pourra rencontrer Dieu. Partout là où il y a la beauté, Dieu est là. Donc Dieu égale beauté. Donc aussi, si on dit je ne connais pas Dieu, dans ce cas c'est redéfinir le nom, le mot Dieu. Dieu ça veut dire beauté. Donc si la beauté s'incarne, un corps humain, comment ça peut être? La beauté s'incarne en corps humain. Corps humain. Donc les Indiens, ils l'ont imaginé. Alors, si, imagine, la beauté s'incarne un homme, en tant qu'un homme, comment il va être? Ils ont laissé leur imagination libre. Comme Dieu, il est sans couleur. Donc il est noir. Dieu n'a pas de couleur. La beauté n'a pas de couleur. Donc un homme noir. Et après, ils ont dit, donc Mekavarnam, ça veut dire la couleur de nuages, juste avant la pluie. Et ils ont dit, est-ce qu'il va avoir des moustaches? Non, ça fait trop viril. La beauté, c'est féminin. Donc, il n'a pas de moustache. Est-ce qu'il porte quelque chose? Ils l'ont imaginé. Et il ne peut pas porter des armes. C'est dommage d'imaginer un Dieu qui a besoin de des armes. Il est omnipuissant. Donc ils ont mis une flûte. La flûte. Et puis on n'a pas du tout l'image de Dieu tout puissant. Et donc, le Dieu, s'il y a un Dieu, ça nous aide à digérer ce qui est difficile. Donc, quand les choses sont difficiles, quand la vie est dure, c'est eux qui ont besoin de Dieu. Dieu, c'est une invention de souffrance. Ceux qui sont vraiment dans la joie, ils n'ont pas besoin de Dieu. Donc, il porte des plumes de paon comme un symbole de la transformation de la souffrance en beauté. Et comment il peut être appelé? Ils l'ont réfléchi poétiquement, ils l'ont dit, un dieu, si c'est la beauté, ça attire comme un aimant. Donc ils l'ont appelé Krishna. Krishna, ça veut dire celui qui attire par la beauté. Mais où il se trouve ? Toute chose est chère pour nous, c'est parce que ça nous rend heureux. C'est le bonheur, la joie, c'est une expérience intime. Donc il n'est pas à l'extérieur, il est dedans, Krishna. Donc dans chacun de nous, il y a quelque chose qui attire Krishna. Mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il dit? Quel est son rôle? Et c'est comme le boussole dans un navire. C'est ça qui décide toutes nos actions, toutes nos paroles, toutes nos décisions, toutes nos pensées. Qu'est-ce que c'est qui décide? C'est cette valeur, la beauté, la joie, l'amour, la paix, la sérénité. C'est en fait, c'est ça qui va aider à juger. Donc il y a une intelligence de cœur qui nous conduit vers l'essentiel. Donc, Krishna, donc le poète, Vyasa a mis en place une histoire d'un enfant né dans le prison de ses parents. On est tous des enfants nés dans le prison de nos parents. Pourquoi c'est comme ça? C'est parce que nous sommes le fruit de leur désir. Mes parents n'ont jamais désiré un monsieur comme moi. Ils ont désiré un bébé. Ils ont dit, j'ai envie d'avoir, voir le petit pied, le petit main pour jouer avec. Mais quelle drôle d'idée de jouer de ma vie. Comprenez, cet enfant commence à grandir, commence à faire pousser des moustaches. C'est plus possible de jouer avec un gars comme ça. Donc en fait, aussitôt que le fruit de désir de parents commence à avoir leur propre désir, c'est un conflit. Ça, c'est notre prison. Pourquoi c'est un prison? Parce qu'on n'a pas choisi d'être dedans. Oui, cette vie que nous menons, nous n'avons pas choisi. On nous a amenés dans une histoire qui nous appartenait. Difficile de se trouver dans le scénario de quelqu'un. Comprenez? Vous comprenez ça? On se plante et puis on nous dit tu fais cela, ceci, cela, et puis on est complètement largué. C'est un état de désarroi. Il faut pouvoir sortir de ça. On a besoin de sauver cet enfant de prison. Et donc, dans cette histoire, le père sauve cet enfant qui amène dans une famille adoptif. En fait, c'est le père, le rôle de père, c'est sauver cet enfant. Mais ça ne se fait pas dans la joie, mais dans la tristesse, de souffrance, de renoncement, de toutes sortes d'attachements qu'on peut avoir pour un enfant né de soi. Donc le poète qui a écrit la Bhagavad Gita, il dit: quand on aime nos enfants plus que les enfants des autres, la guerre est proche. Vous comprenez? Quand notre amour pour nos enfants est plus que les enfants des autres, la guerre est proche. En fait, c'est la cause de la guerre. Pourquoi cela est arrivé? Parce qu'il y a ultime narcissisme, ultime amour de soi, identification au corps, qui donne identification aussi à ses progénitures. On s'inquiète pour nos enfants, on ne s'inquiète pas pour les enfants des autres. En fait, tout ça, c'est un cercle vicieux, et ça nous enferme et ça constitue notre ego. Et c'est notre souffrance, c'est notre force et peur. Et ça, c'est le monde de samsara. Donc la Bhagavad Gita est écrite pour aider une personne qui est complètement confuse à l'intérieur de cette histoire. Donc il fallait imaginer un autre personnage, Arjuna, un guerrier. Et pourquoi c'est un guerrier? Parce que on se bat tous les jours. C'est tous les jours notre vie. C'est une bagarre. Vous ressentez ça? On se lutte. On ne sait pas contre qui qu'on fait cette guerre. Mais chaque instant, c'est... c'est le conflit intérieur. Chaque instant, chaque minute, chaque moment quand vous passez, on a besoin de répondre des milliards de questions cachées. Et quelquefois ça apparaît et puis ça disparaît, ça revient. Qui suis-je, où je vais, tout ça c'est simplement que un fragment de toutes les questions qui ne sont pas répondues. Mais il y a énormément de questions et toutes ces questions sont très 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 âgées. C'est vieux comme le monde, parce que nos parents ont posé cette question et leurs arrière-grands-parents, et ça c'est depuis on ne sait pas quand on pose toutes ces questions et est-ce qu'il y a des réponses. Si c'était si facile, on aurait pu lire des bouquins. Mais on a des bouquins, mais les questions sont toujours là. On a des maîtres. Il y a tellement de réponses qui sont données, mais ça ne nous a pas apaisés. C'est pour ça que cette agitation perpétuelle, parce que les réponses sont venues de l'extérieur. On a besoin de retrouver des réponses dedans. Mais dedans, il y a qui? Il y a Krishna. Il y a un Dieu noir et beau, caché au fond de nos pensées. Et donc, il y a un dialogue entre cette agitation, l'ensemble des questions, on va donner une forme, Arjuna. Parce que les pensées sont comme des flèches. Les questions, ça sort sans cesse. Donc c'est un guerrier qui lance des flèches. En fait, sans cesse, il y a des flèches qui sont lancées. C'est des questions, des questionnements. Il y a énormément de questions. Mais la réponse c'est difficile d'entendre. Au fond de nous, il y a des réponses. S'il y a des questions, il y a des réponses. Pourtant, entre le Dieu qui est au fond de nous et l'agitation de la pensée, il y a quelques milliards d'années-lumière. Donc c'est difficile d'entendre. Et c'est là que le poète a essayé de mettre en mots une chanson en 18 chapitres, 18 chants. Il y a 18 yogas où on va voir les différentes facettes de la vérité, différentes facettes de soi-même, différentes façons d'aborder la vie. Donc l'histoire commence comme ça. Donc comme c'est une histoire, on peut raconter des histoires, on aime l'histoire. Une histoire, c'est une histoire, donc aussi, on n'a pas besoin de trop sérieux par rapport à des histoires. C'est une histoire de conflit entre des frères. Souvent, on respecte bien les autres, mais ceux qui sont trop proches, on n'arrive pas à se respecter. On n'arrive pas à aimer vraiment. Vous avez remarqué ça? On est très poli par rapport aux gens qui se croisent dans la rue, on est aimable, on est superbe. Mais souvent, des gens qui sont proches, comme les voisins, comme des personnes très très proches, c'est difficile. C'est étonnant ça. En fait, pour aimer, on a besoin de certaines distances. Ça, je vois maintenant, hein, beaucoup de couples vivent dans deux appartements. Ils rencontrent quand ils ont envie de se rencontrer. Mais le souci, c'est pas écologique. Deux machines à laver, deux voitures. Je pense que c'est comme autoroute en France. Deux traits. Sécurité, entrée, danger. Une distance de sécurité à respecter. Et donc c'est normal que les frères se battent. Mais qui sont ces deux frères qui se battent? C'est le soi et le non-soi. Moi et l'autre. Oui, le conflit c'est ça. On peut généraliser comme ça. Moi et les autres, le conflit. Il y a des gens que j'aime, il y a des gens que j'aime pas. De toute façon, tant qu'il y a l'autre, c'est l'enfer. Ça fait penser à vos philosophes. S'il y a l'autre, conflit est assuré. Mais quelle est la solution? On ne peut pas éliminer l'autre. La seule entité qu'on peut éliminer, c'est soi-même. Est-ce que je peux m'éliminer moi? Je peux quitter les autres, mais je ne peux pas me quitter. On a besoin d'aller se plonger sur cette entité que j'appelle moi. Qu'est-ce que je suis? Je suis l'ensemble. En tout cas, en ce moment, le corps, les pensées, le souffle, les émotions, mon passé, toute mon expérience, et aussi la conscience qui éclaire mes expériences, c'est l'ensemble. Et puis la lumière, la visibilité intellectuelle que j'ai, c'est extrêmement limité. Donc, conflit est normal, le conflit est normal. Est-ce qu'il y a très peu de ressources que tout le monde se dispute? Est-ce que La population est en monte, mais la terre reste toujours pareille. Le monde sont en train de galoper et puis les ressources sont en train de s'épuiser. Le conflit, c'est normal. Mais comment on peut faire face à ce conflit? Comment on peut le régler vraiment? Donc, dans l'histoire, la guerre s'est déclenchée. Donc, Arjuna, c'est le guerrier très puissant. Il ne s'arrête pas à se battre. Il est le plus fort. Il prend la tête de cette armée de soi. Mais en face, il y a des milliers de soldats. Mais le souci pour Arjuna, quand il voit l'autre camp, il regarde, en fait, il trouve les cousins. Le moment de la guerre, il savait très bien que c'est ses cousins, mais le moment de la guerre, il demande son intelligence intérieure qui a prêté sa présence en tant que le chauffeur de chariot. On dit ça?
Conducteur.
Hein? Conducteur. Conducteur de chariot. Il demandait à j'ai envie de voir les deux camps. Donc Krishna, il amène Arjuna entre les deux armées. Donc ça, c'est une situation yogique. Pourquoi le poète a écrit dans cette façon? Parce que le yoga, c'est la dialectique. Opposé, les deux opposés, on va traiter les deux opposés. On ne prend pas aucune prise. Il n'y a pas de parti prise. On n'est pas de ce camp ou dans l'autre camp. On va regarder les deux camps à partir d'un point de vue neutre. En fait, une fois qu'il a regardé, il s'est attristé. Il se dit, l'autre camp, c'est mes maîtres, mes cousins, mes frères. Mais je ne veux pas gagner cette guerre en tuant mes frères. Il était donc le premier objecteur de conscience dans l'histoire de l'humanité. Parce que c'est un épopée qui est écrite il y a 5000 ans. Donc, un objecteur de conscience dans notre épopée, il dit « je refuse de battre ». Il lâche ses armes. Il descend du chariot, de son char, et il s'assoit par terre et il dit « je préfère de me laisser tuer. Je ne veux pas gagner ce combat. » Il tombe dans un état de burn-out. C'est le mot moderne. Il ne trouve aucun plaisir dans la vie. Une extrême dépression. Et la Bhagavad Gita décrit ses mains, ses jambes se tremblent. Et il sent la bouche desséchée. Il a des chairs de poule. On consent tout ça, qu'il est complètement troublé par cette situation. Il n'arrive pas à décider. Ses forces disparaissent. Et c'est compliqué. Parce que la guerre est lancée. Il s'est déjà engagé dans l'armée. Il fallait décider ça avant. C'est trop tard. S'il court en arrière, c'est le déserteur. S'il ne combat pas, c'est la lâche. Il est lâche. C'est pas glorieux pour un combattant. À ce moment-là, Arjuna commence à parler de toutes ces arguments pour ne pas aller au boulot. Il ne veut pas travailler. Vous ressentez ça? Si on réfléchit bien, on ne va pas aller travailler. Heureusement, on ne réfléchit pas assez pour qui on travaille. C'est ça la question. En fait, c'est n'imaginez pas, c'est une histoire qui s'est passée il y a 5000 ans, mais c'est notre histoire. On travaille pour une entreprise, le propriétaire sont aujourd'hui et, aux États-Unis et le lendemain c'est en Amérique, en Chine ou en Inde. C'est dans quelques clics, en fait, le propriétaire des multinationales, ça change. En fait, il n'y a pas une personne, c'est que des... C'est la bourse, quoi. Donc, c'est, en fait, c'est des parts. Il n'y a que des capitales, et celui qui possède le capital. Et aujourd'hui, une personne possède, le lendemain, c'est quelqu'un d'autre. C'est en fait pour qui on agit. Quand on connaît toutes les vérités cachées, on est troublé parce que nous sommes au service d'un système qui est néfaste. Et c'est là qu'on ne veut plus aller travailler. Il n'y a plus de force, il n'y a plus d'énergie. Donc c'est bien de ne pas regarder tout ça. Mais Arjuna, il a pris le risque de venir dans un endroit qu'on appelle No Man's Land, entre les deux armées. Quand on est dans certaines neutralités, quand on regarde la vie, ce qu'on fait, notre position dans la société, nos actions, on va comprendre que c'est compliqué. On vote et puis on a mis un état, une puissance en place et que toutes leurs décisions, on ne contrôle pas. Ils vont nous demander d'aller tirer une balle chez le voisin parce qu'il est habillé dans un autre uniforme où la couleur de drapeau de ce pays est différente. Et nous sommes dans certains pièges. Notre humanité, notre vérité, notre divinité intérieure n'est pas respectée. Donc on souffre. Et notre souffrance est grande. Et heureusement, on ne regarde pas tout ça. Si on regarde, on va tomber comme Arjuna, dans un état de dépression. Mais pour sortir de cet endroit-là, Krishna chante. Et le premier chapitre, c'est pour montrer le problématique de l'humanité. Et après, progressivement, nous allons vers l'action juste. Comment on peut agir sans que l'action nous domine? C'est ça. Donc, la Bhagavad Gita, c'est un livre qui nous apprend à agir. Il ne dit pas il faut faire ça, il ne faut pas faire ça. C'est pas ça. Il nous apprend comment regarder la vie. Comment regarder soi-même. Qu'est-ce que c'est l'autre? C'est en fait, le poète a rassemblé toutes les connaissances disponibles à l'époque. Il a fait une synthèse, il l'a mis dans le 18 chapitre. Et chaque chapitre qu'on appelle yoga, des différentes formes de yoga, karma yoga, jnana yoga, dhyana yoga, ainsi 18 différentes yogas. Aussitôt qu'on parle de yoga, on imagine une pose sur la tête ou la pince, une torsion, tout ça. Ça fait partie, mais c'est pas que ça. C'est ça la Bhagavad Gita, qui nous apprend à se connaître pour savoir qui suis-je, quelle est ma nature, pour comprendre quelle est l'action qui me correspond. On appelle le dharma. Une fois que je sais qui suis-je et je peux trouver ma place dans cet univers, et une fois que je sais ma place, je peux trouver ma fonction. Bien sûr, un manguier, ça fait du monde. Un jacquier, ça fait des jacques. Ainsi, chaque individu va devenir clair sa mission. En fait, c'est ça, notre confusion. Et notre confusion, c'est pourquoi je suis là. Et notre éducation ne permet pas, ne nous équipe pas du tout pour éclaircir cette question. Souvent, on va à l'école pour avoir un diplôme, pour qu'après on peut postuler pour se vendre. En fait, on nous a arnaqué. On nous a dit que l'enseignement, en fait, c'est pas du tout. C'est pour se vendre. En fait, on nous a réduit en esclaves. Les chaînes ne sont pas visibles. On ne s'est pas donné un enseignement pour réaliser notre vie. On nous a donné un enseignement pour comment se débrouiller, comment aller gagner notre croûte. C'est ça? Gagner ses croûtes. Gagner le croûte, c'est ça que ça croûte. Gagner la croûte. En fait, c'est ça qui nous a réduit à un monde purement matérialiste. Le modèle de bonheur, on nous a proposé comme avoir, pas être. Donc être, la raison d'être, c'est la question. En fait, on peut tout avoir. Mais si on n'est pas bien, quoi ça sert? Voilà la Bhagavad Gita. Ça fait 30 ans que je gagne ma vie à travers cet enseignement. Ça fait 30 ans que ça devient mon essence même. J'enseigne tout ce que je lis, ça passe par le filtre de la Bhagavad Gita. C'est ma référence. C'est un livre à étudier, à vivre, à chanter et aussi à alimenter notre cerveau avec toutes les idées traitées. En fait, à la fin de lecture de la Bhagavad Gita, on devient une autre personne. Avant l'étude de la Bhagavad Gita, je subissais la vie. Je vivais parce que je n'avais pas d'autre choix. Parce que le suicide, ça me fait pas vibrer. Et après, la vie face à moi, je subissais. Mais après l'étude de la Bhagavad Gita, la vie devient un théâtre où on a quatre possibilités. Être spectateur, c'est très amusant de voir cette évolution, la naissance, on est content. Et puis les enfants grandissent, et après on devient vieux, et on disparaît. Et ça fait longtemps que ça continue. C'est un incroyable divertissement. Des saisons, de l'âme, de la nature, du temps. On a l'impression que quelque chose qui se déroule, mais en fait, ça tourne en rond. C'est en boucle. En Europe, il y a des théâtres comme ça. Et vous pouvez rentrer quand vous voulez, vous pouvez sortir quand vous voulez, mais ça tourne en boucle. C'est un peu comme ça. On peut être spectateur et aussi on peut être acteur. spectateur et acteur en même temps. Et puis aussi, on peut entrer dans la création de ce rêve, être créatif, rentrer en contact avec le metteur en scène et négocier un rôle en disant que c'est assez là, j'ai envie d'autres rôles. Finalement, heureusement, on a cette possibilité aussi de quitter, de sortir, entrer dans un état de méditation pour ressentir cet apaisement infini, ce silence qui grandit, et quitter ce monde. Après, c'est difficile de revenir parce que c'est bruyant, ce monde. Voilà, la Bhagavad Gita peut vous apporter beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je conseillerais toujours, malgré la complexité du langage de sanskrit, malgré l'incapacité de traducteur en français, vous pouvez quand même trouver lumière qui peut éclaircir votre chemin de vie. Peu importe notre culture ou l'âge, c'est parce que ça parle de l'humain. On ne dit pas ça c'est à faire, ça c'est pas à faire. C'est le dernier chapitre, hein. Karma Sannyasa Yoga, le dernier yoga. Krishna il dit, voilà, je t'ai tout dit, maintenant réfléchis bien et fais ce que tu veux. Nous laisser entièrement libres. En fait, c'est cette liberté qui est attirante. Il n'y a pas l'oppression, donc il n'y a pas de pression, il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de punition ou de récompense. On est libre. Ainsi qu'on peut grandir, parce que si on obéit, on est toujours enfant. Obéissez plus. Prenez la responsabilité. Ainsi qu'on peut grandir jusqu'à ce qu'on se retrouve cette couple intérieure. Qu'est-ce que c'est ce couple intérieur? C'est souvent, on a décrit ça comme Radha et Krishna. Et Krishna, c'est la joie intérieure et la pensée qui se tourne vers cette joie intérieure. Et c'est ça le final, l'union, le yoga. C'est le contraire, sont fondus à l'intérieur de nous. L'autre et soi, en fait, c'est que la même chose. Le soleil et mon œil, en fait, c'est les deux pôles de même chose. Ainsi que le monde et celui qui regarde le monde, c'est même entité. C'est Dieu qui chante. Merci pour votre écoute et je vous laisse encore quelques minutes s'il y a des réflexions à partager.
Entre les deux. Je parle ici de bouddhisme.
Oui. Dans le bouddhisme, on appelle anatta. C'est un principe, le soi ou une entité suprême. Bouddha, il répète, hein, il a dit ça pendant 40 ans. Il a nié toute entité absolue. Il n'y a rien. Il n'y a pas Dieu, il n'y a pas de soi. La seule chose qu'il y a, c'est changement. Anitya ou anitya en pali. C'est tout bouge, tout change, tout transforme. Mais rien n'est statique. Il y a. La seule chose qu'on peut dire tout le temps, c'est le changement qui est là. Oui. Ça régnait sur l'Inde pendant 1000 ans. Pendant 1000 ans, le bouddhisme était la religion de tous les Indiens. L'hindouisme, c'était peut-être il y avait quelques brahmanes quelque part, mais sinon, tout le monde vivait dans la lumière qui donnée par Bouddha. On a eu énormément de changements dans la société, la médecine, les règles sociaux, l'écologie, il y a plein de façons. Tout était développé pendant 1000 ans. C'est pratiquement c'est l'âge d'or de l'âme. Il était interdit même couper un arbre sans véritable raison. Empereur Ashoka a interdit tous les abattoirs. Toutes les pratiques néfastes des sacrifices des humains, tout ça, sacrifices des animaux, il y a tout qui existait, tout est banni. C'était un balayage. Toutes les petites entreprises pour gagner de l'argent, qu'on appelle le temps balayé. Il n'y a pas Dieu, donc ça va. Mais c'est fabuleux cet enseignement. C'est-à-dire, partout dans le monde, on a cherché à imaginer un Dieu pour pouvoir organiser la société, pour inventer des règles morales, tout ça. Mais Bouddha, il a eu cette audacité de dire qu'il n'y a pas Dieu. Pouvez-vous imaginer ça dans un pays où il y a 330 millions de dieux. Et rester vivant en plus. Parce qu'il a mis au chômage le prêtre. Regarde ce qui s'est passé pour Jésus. Il a dit quelques mots qui a gêné le rabbin, c'est tout, hein. Bouddha, il est sincère. Il a un cœur. Il est ému par la souffrance des autres. Il voulait trouver la remède de la souffrance, toutes sortes de souffrances, psychologiques et physiques. Il a trouvé, il a dit, le moi n'existe pas, donc après, qui souffre? Qui souffre? Si le moi n'existe pas, qui souffre? Il n'y a plus de souffrance. C'était une réponse qui était adaptée à l'époque. Parce que l'Inde est devenue sous l'empire de Ashoka, un incroyable pays. Hein. Donc, c'est Afghanistan actuel, Pakistan, Bangladesh, jusqu'à Sumatra, Java, Bali. C'est toute cette incroyable région vaste était sous la dominance d'un seul royaume et que personne ne se battait contre ce pays. Il y avait la paix. Et quand il y a la guerre tout autour, on ne peut pas avoir le bouddhisme comme religion. C'est parce que le bouddhisme, c'est vraiment c'est un mouvement vers l'intérieur pour réaliser que notre ego, l'identité, c'est que une construction mentale. Quand on a compris que le moi n'existe pas, ça va nous priver de toute l'énergie pour se battre. Pour se battre, on a besoin de l'ego. Moi, c'est chez moi. Pourquoi vous rentrez ici? Comprenez? C'est pour ça que les bouddhistes sont partout. Soit en exil, ou ils sont devenus communistes, ou capitalistes. Le bouddhisme est impossible de le transformer en politique. C'est pas possible. Parce que Bouddha, il était politicien. Il n'y a pas ce rêve de devenir le roi. Parce qu'il a bien compris qu'un roi, c'est un parasite. Après son éveil, son père a appelé, « Viens, reprends tes droits. » Il a dit, « Garde-le. » Il préférait de vivre 40 ans dans la rue pour enseigner, pour rencontrer et avoir des vrais contacts. Entre humains. Donc Bouddha, chaque fois quand il rencontrait quelqu'un, il disait « ami ». Il se mettait en niveau des autres. Le bouddhisme, c'est fabuleux. Malheureusement, très peu de gens mettent en application tous ces remèdes. Les quatre vérités, le sentier octuple, ça suffit de mettre en application et on ne souffre plus. Mettez-vous en application, c'est très simple. Après, qu'est-ce qui s'est passé après cette époque de bouddhisme et pourquoi c'est redevenu? C'est parce que l'Inde est devenue la victime des invasions. Il faut se battre. On a besoin de développer l'ego. Donc ils ont allé fouiller dans leurs archives. Ils ont trouvé des Upanishads, des écrits, où on trouve cette déclaration. En fait, nous sommes chacun, en fait, porteur de l'essence même d'univers. C'est comme une cellule porte l'individu tout entier à l'intérieur, comme l'ADN, on peut cloner, quoi. Donc ça veut dire chaque fragment de nous peut, si on donne toute la facilité, va devenir un autre individu. Chaque grain de sable garde le secret de l'univers tout entier. Et donc, en fait, cette vérité, le parcelle, contient le tout. Je veux dire, chacun de nous, en fait, porteur de l'univers tout entier. Imaginez la puissance, au lieu de dire « je n'existe pas, je suis l'univers ». Cette immense possibilité qui est dedans, était le peuple de l'Inde a été séduit par ou reséduit parce que les choses s'oublient très vite. Ils sont de nouveau retournés à leur ancienne religion. je suis l'univers. En fait, si quelqu'un m'attaque, c'est un problème à l'intérieur de moi. C'est une partie de moi qui m'attaque. C'est comme la main droite qui pince la main gauche. C'est une maladie auto-immune, médicalement parlant. Là, c'est le yoga.
C'est ce qu'on appelle la dualité.
Pardon ?
C'est ce qu'on appelle la dualité.
La dualité, c'est une fiction. Les frontières sont illusoires. Tout est un. Tout est un dans le sens, quand on dit une voiture, c'est une voiture. Mais en fait, il y a plein de fragments qui sont à l'intérieur, mais c'est une voiture. C'est-à-dire chaque élément collabore avec le reste. Interdépendant. C'est les racines d'un arbre à ses fonctions, mais sans la racine, les feuilles ne peuvent pas pousser. L'arbre ne peut pas pousser. Ainsi qu'il y a des connexions. Donc on peut regarder ça comme un seul système. Et maintenant on appelle aussi système theory dans la science. C'est chaque système est à l'intérieur d'un autre système beaucoup plus grand. Et chaque fois on retrouve la même chose. Comme le fractal. Donc vous cherchez le mot fractal sur internet et vous pouvez trouver... Et chaque fragment, en fait, si vous élargissez, on trouve le tout à l'intérieur de chaque. Donc cette idée est fabuleuse si vous vous appliquez dans votre vie. Normalement, on est gêné par la présence de l'autre. En fait, si l'autre est soi, on est seul dans la présence de l'autre. Donc notre... notre solitude n'est pas perturbée par la présence de l'autre. Fondamentalement seul avec les autres. Je vous rappelle simplement pour si vous avez certainement beaucoup de choses à faire avant de partir, et puis demain matin ça sera pareil, le matin on va se retrouver pour la cérémonie de feu et le yoga proposé par Sylvie qui est là. Non, elle n'est pas là. Ouais. Demain, c'est moi je serai là, mais le cours est fait par Sylvie. Et après demain, je vais proposer ça aujourd'hui, mais il y avait des gens qui partaient, donc qui m'ont demandé de faire quand même. Et après demain, j'aimerais bien pratiquer aussi avec toi, Catherine. Ça va? Il y a des fourmis?
Non, c'est une bête.
Il y a une bête?
Oui.
Un truc noir?
Oui. Bah, c'est bon.
Donc, merci beaucoup. Bonne
merci. Merci. Merci.
Bon voyage, bon retour. Merci. Thank you.